bon Dieu, tu sais.
Merci Jacques pour le scénario de Quai des Brumes. Et maintenant,
embrassez-moi.
La parole est au lycéen de Prévert.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre Mac Culture, l'émission qui vous présente des livres, des films, mais aussi des événements culturels, parfois inconnus au public.
Le Mac Culture de l'Atelier Média.
Interviews, reportages et chroniques.
Cinéma, séries,
musique,
livres,
BD,
manga,
jeux de rôle
et jeux vidéo.
Au programme aujourd'hui, nous vous présentons des activités culturelles et locales, telles que des clubs sportifs. Nous ferons également le lien entre actualité en écoutant deux interviews en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Nous ferons aussi le lien entre écran et littérature. Enfin, nous vous parlerons de musique avec Alice et Lilou. Avant tout, nous tenons à vous informer que le concours d'éloquence, initialement prévu le 24 mai, est décalé au 31 mai. Nous vous rappelons que pour participer ou y assister, vous devez vous inscrire auprès de la vie scolaire. Nous allons commencer par parler de films et séries, en commençant par écouter Alice qui va vous présenter la série Shadow and Bones.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une série de livres fantastiques qui m'a beaucoup plu, la saga Shadow and Bone, écrite par Leigh Bardugo, qui nous transporte dans un monde où les Grishas, des êtres dotés de pouvoirs extraordinaires, influent sur le cours de l'histoire. Dans la série Shadow and Bone, nous suivons l'histoire d'Alina Starkov, une jeune cartographe ordinaire dont la vie bascule lorsque ses pouvoirs Grishas se révèlent. Elle découvre qu'elle est la seule capable de libérer son pays natal, Ravka, des ténèbres menaçantes du Fold, une étendue de ténèbres peuplée de créatures mortelles. Dans cette lutte pour la survie, Alina est confrontée à des choix déchirants et à des intrigues politiques complexes. Elle est soutenue par Mal, son ami d'enfance, et par le mystérieux Darkling, chef charismatique des Grishas. Mais alors que ses pouvoirs grandissent, Alina doit naviguer entre amour et devoir, tout en découvrant les secrets qui entourent son passé. Dans le même univers, qu'on appelle Grishaverse, il y a la série Six of Crows, où on plonge dans les rues sombres de Ketterdam, une ville pleine de magie, de trahison et de danger. Un groupe improbable de hors-la-loi se rassemble pour réaliser un cambriolage audacieux, mais leurs plans sont compliqués par des alliances instables et des ennemis redoutables. À travers ces histoires entrelacées, Leigh Bardugo tisse un monde riche en détails et en émotions, explorant des thèmes universels tels que le pouvoir, l'amour et l'identité. La série adaptée des livres, sortie sur Netflix en 2021, a rapidement captivé les spectateurs avec ses paysages somptueux, ses effets spéciaux spectaculaires et ses performances d'acteurs exceptionnelles. Mais bien sûr, les livres sont toujours là, offrant une profondeur supplémentaire à cet univers déjà captivant. Les lecteurs peuvent explorer plus en détail les pensées et les motivations des personnages, ainsi que les détails subtils de l'intrigue. Cependant, malgré les similitudes, la série apporte également quelques changements par rapport au livre, ce qui peut surprendre les fans les plus dévoués. Certains personnages sont développés différemment, certaines intrigues sont légèrement modifiées pour s'adapter au format télévisé, mais l'essence même de l'histoire reste intacte. La plus grosse différence, c'est que les deux séries, donc Shadow and Bone et Six of Crows, sont mélangées dans la série, alors que les personnages ne se croisent pas aussi rapidement dans les livres. Mais voilà, malgré tout l'engouement et l'attente impatiente des fans pour une suite, une ombre plane sur l'avenir de la série. Netflix a récemment, enfin, il y a un petit bout de temps déjà, annoncé l'annulation de la saison suivante, la saison 2, laissant les fans dans l'incertitude quant à la conclusion de l'histoire d'Alina et de ses compagnons. La raison ? Un coût en effets spéciaux trop élevé. En effet, cet univers fantastique demande un budget qui n'est malheureusement pas rentable malgré les nombreux fans de la série. On espère toujours que la série puisse se poursuivre un jour, mais en attendant, les livres nous donnent la fin tant attendue de cette série captivante que j'ai personnellement adorée.
Alors pour ma part, pour avoir vu la série et lu les livres Six of Crows, malgré que je n'ai pas lu les livres Grisha, j'ai été plus attachée aux livres, aux personnages vraiment des livres Six of Crows, c'est-à-dire tirés de ces livres-là. Et ce qui m'attriste franchement avec l'annulation de la suite de la série, c'est que la suite était censée plus être tournée vers les livres justement de Six of Crows, tandis que l'histoire des deux premières saisons suivait plutôt les livres de Grisha. Et donc pour ma part, qui ai été moins attachée aux personnages de Grisha, ça m'a vraiment attristée puisque le meilleur était encore à venir, quoi. Et que ça s'arrête maintenant, franchement, c'est très frustrant. Et s'il vous plaît, Netflix, si vous entendez ça, par je ne sais quel miracle, remettez-nous la saison 3, on en a besoin. S'il vous plaît, pour ma santé mentale, j'ai besoin de revoir ces personnages qui m'ont tant fait vibrer pendant ces deux premières saisons.
Bah, merci beaucoup, Alice et Ambre, pour toutes ces informations et cette réaction. On va rester avec toi, Ambre. Alors, il y a Chloé qui est partie parce qu'elle avait un rendez-vous médical, donc elle s'excuse, hein. Mais du coup, on va rester avec toi, Ambre, pour parler du film « Écrire pour exister ». Donc, Écrire pour exister, c'est un film français qui a été réalisé par Richard Lagrimet en 2017 et il était aussi récemment disponible sur Netflix. Il raconte l'histoire d'une jeune professeure, Erin, qui vient enseigner dans un lycée d'une cité de Long Beach aux États-Unis. Dans le quartier où se trouve le lycée, il y a de nombreux gangs qui s'affrontent. En effet, dans la classe d'Erin, il n'y a qu'une seule personne de couleur blanche, tous les autres lycéens étant métis ou ayant une peau de couleur noire. On le comprend, Erin enseigne donc dans un lycée et surtout dans une classe où l'ambiance est électrique. Néanmoins, la jeune femme ne se démonte pas et tente par de nombreux moyens de rassembler les groupes, tout en tentant d'instruire ses élèves pour qui les cours n'ont qu'une place minime dans leur vie. Au début du film, ses tentatives vont échouer, puis grâce à un incident mineur, Erin va parvenir à instaurer un climat de confiance entre elle et ses élèves jusqu'à ce que ceux-ci se mélangent entre eux.
Alors, le film Écrire pour exister m'a particulièrement plu, car il met en avant la beauté d'un métier qui est de nos jours très critiqué. En effet, c'est touchant à quel point la professeure fait tout pour ses élèves, pour qu'ils réussissent le plus possible, quitte à déborder sur sa vie privée. De plus, c'est un film très poétique, d'autant plus que les élèves viennent des cités de la ville, ce qui déconstruit un cliché qui est que la poésie est inaccessible aux plus démunis. Pour le coup, j'ai vraiment trouvé ce film magnifique, car cela se sent dès le début que les élèves sont brisés, obligés de se battre pour survivre. Et malgré cela, c'est beau de voir tout ce que leur professeur va leur apporter, bien que cette poésie ne les aidera pas à manger à la fin du mois. Ils y prennent quand même goût, au final. Cette professeure a réussi à leur faire aimer apprendre, à les intéresser. Et n'est-ce pas l'objectif de tous les professeurs ? Ainsi, ce film nous montre que même dans un environnement compliqué, la culture peut toujours avoir sa place.
Alors, Chloé aussi avait rédigé une note pour ce film. Donc, elle avait regardé sur Internet et le film est noté 4,9 sur 5. Ce film, ça a été un franc succès à toutes les échelles, que ce soit auprès des jeunes, aussi bien que chez les anciennes générations. Pour sa part, ce film, elle l'a vu et revu et elle ne s'en lassait pas. Donc, dans ce film, la ségrégation raciale est redondante et donc on peut se mettre à la place de chaque personnage, que ce soit des personnages afro-américaines, asiatiques ou tout simplement blanches, parce que chaque personnage a ses problèmes. Ce qui lui a le plus plu est l'évolution au fil du film et aussi cette évolution qui nous questionne sur nos problèmes actuels, que ce soit l'égalité pour l'accès à la scolarisation, le soutien parental et bien d'autres. Aussi, ce qui l'a beaucoup marqué, c'est que cette histoire est tirée de faits réels qui sont mis en avant dans le film. On peut d'ailleurs y retrouver leurs photos de classe ou encore le nom de leur livre, L'écrivain de la liberté, toujours disponible à l'achat et que Chloé vous recommande. Écrire pour exister, donc un film que Chloé vous recommande à 100% et pour simplement se mettre à la place des personnages dont leur vie n'a pas toujours été facile à la tâche. Pour conclure, elle vous recommande ce livre car pour elle c'est une bonne leçon de vie pour prouver que chacun a le droit à une seconde chance.
Right through the maze of the madness. Struggle is my address where pain and crack lives. Gunshots coming from sounds of blackness. Given this game with no time to practice. Born on a blacklist. Told I'm below average. A life with no cabbage. That's no money if you're from where I'm from. Funny, I just want some of your son. Dark clouds seem to follow me. Alcohol that my pop swallowed bottle me. No apology, I walk with a bold on my shoulder. It's a cold war, I'm a colder soldier. Hold the same fight that made Martin Luther the king. I ain't using it for the right thing. In between lean and the fiends, hustle and the schemes. I put together pieces of a dream. I still have one.
I got a dream.
One day,
we gonna work it out, out, out.
One day,
we gonna work it out, out, out.
One day,
we gonna work it out.
I have a dream.
I got a dream.
One day,
we gonna work it out, out, out.
One day,
looking in the mirror, images of me getting much clearer, dear self.
I wrote a letter just to better my soul. If I don't express it, then forever I hold inside. I'm from a side where we gotta control. Rap music and the hood play the fatherly role. My story like yours, yo, gotta be told. Trying to make it from a gangster to a godlier role. Red scrolls are stole slaves and Jewish people in cold cage. Hate has no color or age, flip the page. Now my rage became freedom. Right dreams in the dark, they far, but I can see them. I believe in heaven more than hell. Blessings more than jail. In the ghetto, letting love prevail. With a story to tell, my eyes see the glory. And well, the world waiting for me to yell. I have a dream.
I got a dream.
One day
we gonna work it out, out, out.
One day
we gonna work it out, out, out.
One day
we gonna work it out.
I have a dream.
I got a dream.
One day
we gonna work it out, out, out.
One day
we gonna work it out, out, out.
One day
we gonna work it out.
I have a dream.
I got a dream.
That one day.
The one day.
That one day.
I'ma look deep within myself.
D'écouter A Dream de Comin et de Will.E.A. Cette musique était la bande annonce du film que nous venons de vous présenter. Nous allons maintenant nous intéresser à la vie associative locale, en commençant par écouter Luna qui va nous présenter un texte que Chloé a écrit mais qu'elle ne peut pas vous dire, pour nous présenter l'association Cap à Voile.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Cap à Voile, une association pas comme les autres, cachée sur l'îlot de l'étang de Toutainville. La Cap Voile réunit toutes les générations autour d'une même passion, la voile. Là-bas, on peut faire de la planche à voile et tant d'autres tant qu'il y a de la voile. L'ambiance là-bas est indescriptible. On s'y sent tout de suite chez soi. La Cap à Voile est en permanence en évolution. En effet, chaque membre de l'association peut ajouter sa pierre à son édifice et plein de projets d'aménagement faits maison sont réalisés, que ce soit simplement installer un chauffage dans le vestiaire, à construire un nouveau bâtiment dirigé par Mathieu Pierce et secondé par Nicolas Plessis. Le CAPA garde une ambiance sérieuse et quelque peu blagueuse avec Fabien, en partenariat avec l'AS Prévert, le professeur de PS, ainsi que les élèves de l'AS, peuvent découvrir les joies et les inconvénients de la voile certains mercredis à partir de fin mai. Petit bonus, une fois qu'on a bien travaillé en voile, on pose on sort les paroles et là c'est l'éclate sur l'eau. En tout cas, la Cap à Voile est une association géniale qui mérite d'être connue.
Merci beaucoup du coup Luna. Maintenant on va s'intéresser à un autre sport avec Gaspard qui va nous parler de cyclisme. Donc d'abord bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les différentes disciplines du cyclisme ?
Le cyclisme comporte plusieurs disciplines, notamment le VTT, le cyclisme sur route et sur piste, le cyclocross et le BMX. Ces sports sont tous différents, ils ne se pratiquent pas à la même échelle sur le plan de la vitesse, du dénivelé, du nombre de participants et du kilomètre. Les épreuves ne sont pas disputées de la même façon, chaque discipline utilise des règles, des équipements et des types de compétitions différentes.
Comment se prépare une course de cyclisme sur route ?
Une course cycliste se prépare sur le plan stratégique, physique et mental à l'avance. Il est important que tous ces facteurs soient combinés pour tirer le maximum de son potentiel le jour de la course. Il faut bien s'entraîner, bien étudier le parcours et ses difficultés, et enfin bien se reposer et bien se nourrir pour être le plus performant le jour de la course.
Comment se déroule une course cycliste ?
Une course cycliste se déroule en peloton. Elle est rythmée par les équipes de leaders qui contrôlent la course pour celui-ci. Les équipes des leaders sont là pour soutenir celui-ci et réduire ses efforts au maximum pour qu'il puisse être placé parfaitement et en ayant une meilleure forme physique que ses concurrents pour utiliser les capacités ou la fraîcheur que ceux-ci n'ont pas. Les coéquipiers des leaders sont là pour prendre le vent, l'aider à remonter lorsqu'il s'arrête, pour le ravitailler ou pour le soutenir lors des difficultés du parcours. Durant la course, il faut gérer son effort, bien s'hydrater et bien s'alimenter en nutriments. Si ce n'est pas fait, il y a des risques de fringale. La fringale est une sensation de faim extrême qui coupe l'effort. En résumé, durant une course cycliste, plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour pouvoir performer et il ne suffit pas de pédaler pour gagner.
Est-ce que le cyclisme, c'est un sport d'équipe ?
Oui, de nos jours, le cyclisme est devenu un sport d'équipe. Il est devenu trop difficile de gagner une course ou un grand tour tout seul et sans aide. C'est pour cela que les équipes sont au service de leurs leaders.
Quelles sont les problématiques que rencontre le cyclisme de nos jours et quelles sont les solutions pour y remédier ?
Notre sport rencontre plusieurs problématiques aujourd'hui. Le dopage est sûrement la plus importante, mais la sécurité des coureurs et la promotion de l'égalité des genres sont tout aussi importants. Pour y remédier, il faut renforcer les contrôles antidopage, améliorer les routes pour les cyclistes, mais aussi sensibiliser les automobilistes à faire attention à ceci. Il faut aussi encourager la création de pistes cyclables pour plus de sécurité. Enfin, il faut vivement encourager la participation des femmes dans le cyclisme.
Quels sont les avantages du cyclisme sur notre santé ?
La pratique du cyclisme est excellente pour le corps car elle permet la réduction de stress et améliore nos muscles et nos capacités cardiovasculaires. Sans oublier que le vélo est un moyen de transport écologique qui peut être facile d'accès pour tout le monde. C'est pour cela que nous devons promouvoir et encourager la pratique de ce sport.
Quelles sont les plus grandes courses de cyclisme du monde ?
De nos jours, les courses cyclistes sont divisées en deux catégories. Les classiques, qui sont des courses d'un jour, et les grands tours, qui se disputent sur plusieurs semaines. Les plus grandes classiques disputées aujourd'hui sont Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix et Milan-San Remo. Et les grands tours les plus réputés et disputés sont le Giro, la Vuelta et le Tour de France.
Est-ce que tu pratiques ce sport en club ?
Oui, je pratique avec le club de ma ville qui s'appelle le Vélo Club de Routot, une fois par semaine, et je roule aussi avec un autre club, le mercredi, qui s'appelle le Vélo Club de Bourg-Tourault, avec qui je vais probablement m'engager pour disputer des courses. Pour terminer, je voulais juste parler de Mets à Vélo. Mets à Vélo est un dispositif qui souhaite à encourager les élèves à venir en vélo le 21 et 22 mai prochain. Je vous encourage donc à y participer, cela peut être une bonne expérience. Merci beaucoup de votre écoute.
Merci beaucoup Gaspard pour toutes ces informations. Nous sommes maintenant avec Camille, Eleanor et Lilou, qui vont continuer de nous parler du jeu Donjons et Dragons qu'elles avaient commencé à nous présenter lors de la première journée radio.
Donc bonjour à tous. Dans cette chronique, nous allons aborder le jeu de rôle Donjons et Dragons. Dans une précédente émission, nous avons présenté les grandes lignes du jeu de rôle et aujourd'hui nous allons aborder les détails. Eleanor, peux-tu nous présenter les différentes classes ? Les différentes races.
Donc, dans Donjons et Dragons, on peut incarner des personnages aux races très variées. Je vais donc vous présenter les 9 races les plus connues. Il y a bien évidemment les humains, soit la race la plus basique en termes d'attributs et la plus commune. Les elfes, soit des créatures magiques à la beauté extraordinaire vivant souvent dans d'anciennes forêts. Les nains, eux, sont comme des petits humains, mais plus bagarreurs et ayant le crâne dur et vivant dans d'immenses cités souterraines. Les afflins sont tout aussi petits que les nains, mais ils préfèrent le calme et la paix dans leur petite communauté agricole. Il y a ensuite les demi-elfes, des hybrides entre les humains et les elfes, les demi-orques, des hybrides entre les humains et les orques. Plus méconnus que les autres races, il y a les gnomes, des êtres aimant vivre et rire dans leur communauté souterraine. Les tieflings, eux, sont une des races les plus détestées par les humains. Leurs lignées furent imprégnées par l'essence d'Asmodée, le seigneur des neuf enfers, un archidiable surpuissant, après un pacte il y a déjà des centaines d'années. Et enfin, ma race favorite, les drakeïdes, façonnés par les dieux dragons. Ils sont fiers de leurs attributs et de leur héritage draconique. Cependant, ils sont très souvent assujettis par les vrais dragons, les utilisant comme esclaves et serviteurs.
Merci pour cet éclaircissement. Nous allons maintenant aborder les classes et d'autres détails. Camille, peux-tu nous en dire plus ?
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des différentes classes dans Donjons et Dragons. Ces classes, comme nous les avons dit précédemment, sont les différents métiers que votre personnage peut s'approprier. Il y a 11 classes différentes de la dernière édition de Donjons et Dragons. Il y a le barbare, un combattant qui utilise ses émotions et sa rage pour alimenter son combat. Des bardes, un artiste qui utilise la magie et la créativité pour influencer les autres et soutenir ses alliés. Le clerc, dévot d'une puissance divine qui peut soigner, protéger et canaliser l'énergie divine. Le druide, protecteur de la nature, il peut utiliser la magie et se métamorphoser et invoquer des animaux. Le roublard, l'archétype du voleur, utilisant la ruse et le terrain à son avantage. Le guerrier, combattant habile qui excelle au combat et peut utiliser diverses armes et armures. Le moine, artiste martial, qui utilise l'énergie ki, la vitesse et les coups de poing nus pour se battre. Et le paladin, un guerrier saint qui allie magie divine et prouesse martiale pour respecter son serment. Le rôdeur, cette classe relie le druide et le guerrier. Le rôdeur combat en utilisant la nature et les animaux à ses côtés. L'ensorceleur, un chanceux, qui obtient des puissants pouvoirs magiques grâce à sa lignée. Et l'artificier, cet inventeur suprême maîtrise l'art de libérer la magie à travers des objets du quotidien. Tous ces métiers ont une capacité spécifique qui va être plus utilisée pendant leur combat. Il existe 6 capacités différentes, la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. La force est le fait de combattre avec de grosses armes de détruire certaines structures. La dextérité pourrait se traduire par l'agilité, voire la furtivité. La constitution est le fait de se régénérer, d'encaisser. Le charisme, c'est le fait de persuader, de séduire et de négocier. L'intelligence, c'est être fin et habile, contrairement à la sagesse où c'est plus du savoir et de la culture. En jeu, cela se passerait ainsi. Le magicien observe un artefact très ancien. Grâce à son niveau haut de sagesse, il peut se souvenir facilement de l'origine de cet artefact pour informer ses compagnons. Pendant ce temps, son ami barbare détruit les ennemis restant aux alentours en utilisant sa rage et sa force démentielle. Les ennemis tombent les uns après les autres. Grâce à l'utilisation des capacités et de prédilection des classes, les tâches de chacun rendent des résultats plus gratifiants et plus vite. Dans Donjons et Dragons, il y a également la possibilité de multiclasse, c'est-à-dire de prendre deux classes et d'arriver à de bons niveaux dans ces dernières, pour qu'après beaucoup d'efforts, les joueurs peuvent fusionner plusieurs aspects des deux classes pour créer leur propre race. Cela dit, la multiclasse est cool, mais aussi très contraignante et pas forcément conseillée pour les débutants.
Je remercie mes deux comparses pour ces détails, et je vous remercie également de votre écoute.
Merci à toutes les trois de nous avoir reparlé de ce jeu après la première journée radio. Nous allons maintenant parler de musique avec Alice qui nous parlera de la pression que peuvent subir les artistes de K-pop à cause de leur public et leurs agences.
Écoutez.
Écoutez.
C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
L'atelier média. S'exprimer pour comprendre.
Bonjour à tous. Donc, comme Soline l'a dit, nous allons ensemble découvrir les coulisses de l'industrie musicale en Corée. Il n'est pas rare de voir des groupes de K-pop idols illuminer les scènes mondiales avec leur énergie électrisante et leur performance impeccable. Mais derrière les sourires éblouissants et les pas de danse synchronisés se cache une réalité moins reluisante. Une réalité où la pression est constante et écrasante. Imaginez-vous être une idole coréenne, une étoile montante dans l'industrie du divertissement. Vos journées sont remplies de répétitions épuisantes, d'enregistrements interminables en studio et de séances de photos sans fin. Votre vie privée, elle n'est plus vraiment privée. Chaque action, chaque mot est scruté par des millions de fans à travers le monde. Vous devez être parfait, impeccable, en tout temps. La moindre erreur, le moindre faux pas et vous risquez de décevoir vos fans dévoués. La pression pour maintenir cette image irréprochable peut être accablante. Mais ce n'est là qu'une partie de l'histoire. Les agences de divertissement coréennes, souvent comparées à des usines à idoles, exercent également une pression intense sur leurs artistes. Les contrats sont stricts, les horaires de travail sont souvent épuisants et les standards de beauté et de comportement sont extrêmement élevés. Les idoles sont constamment poussées à se surpasser, à être plus minces, plus talentueuses, plus populaires. Leur vie personnelle est souvent sacrifiée au profit de leur carrière. Les scandales peuvent avoir des conséquences dévastatrices tant pour l'artiste que pour l'agence. Reprenons l'exemple du poids. En moyenne, une femme idol de K-pop qui mesure 1m60 doit peser dans les 45 kg. Vous trouvez ça peu ? Rassurez-vous, moi aussi. Mais en Corée, c'est simplement la norme. D'ailleurs, si elles prennent seulement 5 kg en plus, elles seront considérées comme grosses. C'est quand même fou quand on se dit qu'ici en France, ces femmes, elles seraient en sous-poids. Et ces exigences, elles ont bien évidemment des conséquences sur la santé. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'idoles qui se sont évanouies sur scène en plein milieu d'une chanson. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est normal. On leur demande de chanter et de danser sans avoir presque rien mangé juste avant. Tu m'étonnes que ton corps, il tient pas le coup. Alors oui, toutes ces personnes, elles ont choisi leur métier et elles ont connaissance des risques. C'est vrai. Mais on admettra que leurs conditions de travail sont dans la plupart des cas injustes et extrêmement difficiles à supporter. Et il faut en plus ajouter à tout cela la pression des fans. Justement, on va en parler. Des fans. Enfin, des fans entre guillemets. Parlons des Saseng, ces fans obsessionnels de l'industrie du divertissement sud-coréen qui font beaucoup parler d'eux. Mais derrière ce terme se cache une réalité bien sombre et inquiétante. On parle ici de fans qui vont bien au-delà de la simple admiration pour leurs idoles. Ils franchissent les frontières de la vie privée, mettant en danger la sécurité et le bien-être des célébrités qu'ils idolâtrent. D'ailleurs, le mot Saseng se forme des mots coréens « sa » qui signifie « privé » et « seng » qui signifie « vie ». Ces Saseng ne se contentent pas de suivre leurs idoles préférées sur les réseaux sociaux. Non. Ils vont jusqu'à camper devant chez eux, hacker leurs informations personnelles et même les traquer physiquement. C'est une invasion constante, un cauchemar quotidien pour les artistes qui se retrouvent pris au piège de cette obsession malsaine. Certains vont même plus loin. Par exemple, en novembre 2009, une fan d'Octaegyeon, membre du boy group 2PM, a publié sur les réseaux sociaux une photo d'une lettre qu'elle avait envoyée à l'idole. La petite particularité, c'est qu'elle a écrit cette lettre avec son sang menstruel. Elle avait même posté une autre photo comme preuve où on pouvait voir le tampon qu'elle a utilisé pour écrire le message. Bien sûr, il y a de nombreux autres événements, comme des accidents de voiture provoqués par des fans qui suivent les idoles, des intrusions à domicile et même des tentatives d'enlèvement et d'empoisonnement. Et malgré tous les efforts déployés par les agences de divertissement et les autorités pour réprimer ce comportement, le problème persiste. Ces fans obsessionnels continuent de sévir, alimentés par une culture de l'idolâtrie qui semble parfois encourager leur comportement intrusif. C'est pourquoi il est crucial de sensibiliser le public à cette menace et d'agir fermement pour protéger la vie privée et la sécurité des célébrités. Des mesures plus strictes, une législation renforcée, tout est nécessaire pour mettre fin à cette situation inacceptable. Car derrière les paillettes et les sourires sur les réseaux sociaux se cache une réalité bien plus sombre pour ces stars harcelées et traquées par ceux qui prétendent les admirer. Mais malgré toute cette pression, les idoles coréennes continuent de briller sur la scène internationale. Leur dévouement, leur talent et leur résilience sont admirables. Elles sont une source d'inspiration pour des millions de fans à travers le monde qui voient en elles des modèles à suivre. Alors que l'industrie du divertissement coréenne continue de prospérer, il est crucial de se rappeler que les idoles sont des êtres humains, des jeunes gens qui ressentent la pression comme n'importe qui d'autre. Ils méritent notre soutien et notre compréhension, plutôt que d'être jugés uniquement sur leur image publique. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup Alice pour ces informations quelque peu surréalistes. Nous allons maintenant écouter Lilou qui va nous parler de la New Retro Wave.
Bonjour à tous, je m'appelle Lilou et aujourd'hui je vais vous présenter un style de musique assez atypique, le New Retro Wave. Aussi appelé Synthwave et digne successeur du Retrowave, il s'agit d'un style de musique ayant des codes fortement ancrés dans l'imaginaire collectif. Une voiture roulant vers l'horizon, des effets néons rappelant sans nul doute les années 80. C'est l'objectif de ce style. Celui-ci veut ramener au jour des musicalités plus anciennes, tout en les combinant à la technologie et aux constructions plus actuelles de la musique. Ce style est apparu très récemment, dans les années 2010 en France, Cocorico. Ce mouvement prend toute sa source dans la nostalgie musicale de certains artistes. Avec des instruments emblématiques, comme l'avènement du vocoder, un petit outil très utilisé aujourd'hui, qui permet de modifier la voix pour en maîtriser pleinement le rendu, mais également les boîtes à rythme, permettant de produire des percussions, ou encore les deux instruments principaux, la guitare électrique et le synthétiseur. Ce dernier est le centre de ce style. Impossible de trouver un seul son de New Retro Wave sans un synthé. Des sonorités bien précises sont recherchées. Les artistes préconisent donc des appareils d'époque, comme le Roland Jupiter 8 ou le Korg M1, deux modèles de synthétiseurs plutôt rétrogrades aujourd'hui. Les débuts de ce style se font en France, suite au mouvement Friend Touch, et plus précisément, suite au mouvement de la House, qui s'approprie l'utilisation de boucles ou de loops, donc des répétitions d'instruments tout au long du morceau, ce qui représente le format actuel de la musique. Par exemple, les Daft Punk ont été les pionniers du mouvement Friend Touch et ont propulsé la future création de New Retro Wave. Aujourd'hui, les grands noms de ce style sont Anorak, The Midnight ou encore Danger. Pour ma part, je me concentre sur la scène française avec des artistes comme V.I.Q, Allison ou encore Crozier. Ils ont d'ailleurs réalisé un projet commun du nom de Trifetka, que je conseille vivement à tous les curieux. Ils sont les descendants des premiers artistes qui ont créé ce style, comme College ou Kavinsky. Aujourd'hui, de nombreux sons genres ont été créés, la Vaporwave, apportant une atmosphère lofi, ou la Dark Synth, incluant des instruments utilisés dans le métal. L'esthétique de ce style est souvent montrée dans des films ou des séries, par exemple la fameuse série Stranger Things, Tron l'Héritage, Blade Runner, mais aussi des jeux vidéo comme Far Cry 3. Le New Retro Wave est donc plus qu'un simple style de musique, c'est une esthétique codifiée, des artistes prometteurs et une scène de plus en plus mise en avant. We'll be right back.
Merci beaucoup Lilou de nous avoir fait découvrir ce style musical. Nous allons maintenant écouter Nightfall de Alison Vick et Crozia. Nous allons maintenant rejoindre l'actualité de cette année 2024, donc, que nous avons déjà évoquée dans notre mag d'actualité, en vous présentant trois sujets en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Nous allons commencer par écouter une interview réalisée par Zoé, qui a interrogé ses grands-parents.
Bienvenue à cette entrevue spéciale avec Francis Duhem et Marie-Jo Ballot, un couple marié depuis 70 ans. Ils ont généreusement accepté de partager avec nous leurs souvenirs d'enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils vivaient à la ferme. Plongeons dans cette période riche en défis et en enseignements à travers leurs yeux et leur expérience unique. Quel âge aviez-vous et comment aviez-vous vécu le début de la guerre ?
Bon, j'étais toute petite, j'avais 6 ans, mais je me souviens toujours des avions qui sont passés en nombre au-dessus. Et papa a dit, ça y est, c'est la catastrophe. C'est la guerre qui commence.
Moi, c'est pareil, j'avais 8 ans, j'ai un vague souvenir des avions qui passaient.
Y a-t-il des histoires ou des anecdotes spécifiques de cette période que vous souhaitez partager avec nous ?
On a commencé à voir les gros camions des gros camions. On ne savait pas si c'était les soldats français ou les anglais qui arrivaient. Voilà. Et puis, comme il y avait de la place dans les vergers en face de la maison, papa a toléré qu'ils se mettent dans les allées. Et nous, on était tout contents d'aller leur dire bonjour. Et puis, ils avaient des bonbons et puis tout ce qu'il fallait. Donc, on était contents.
Moi, je me souviens avec une tante, je suis allé voir un avion dans une propriété plus loin, un peu plus loin, qui est un avion qui était tombé.
Moi, je me souviens d'un autre avion qui était tombé. C'était un avion allemand qui avait été abattu. Voilà. Et c'était un événement tout autour de nous, quoi.
Et ça vous a choqué? Vous avez eu peur?
Pas tellement, tu sais. C'était tellement... On vivait ça tout doucement.
On sait, hein.
Oui, il n'y avait pas de méchanceté jusque-là, donc tout allait bien. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand les Allemands ont été arrivés chez nous, et les Allemands sont rentrés derrière, ils ont demandé des œufs, une poule, on leur a donné.
Ils étaient menaçants avec vous ou pas du tout?
Non, ils n'étaient pas mauvais.
Comment avez-vous géré la cohabitation avec les soldats et les occupants étrangers?
Il fallait donner beaucoup de blé et puis leur donner tout ce qu'ils voulaient. Hein.
Est-ce que ça vous a impacté sur le fait que du coup vous avez moins de nourriture pour vous?
Non, nous avions la chance d'être dans une ferme avec tout, des poules, des lapins, des vaches, tout ce qu'il fallait. Non, ça ne nous a pas impacté. Et même à l'occasion, on tuait une bête, soit un cochon, soit un veau, et on le disait au bouche à oreille, et les gens venaient séparément pour ne pas se faire prendre et avoir un morceau de viande en plus. On a fait le partage.
Quels étaient les défis les plus difficiles auxquels vous êtes confrontés en tant qu'enfant pendant cette période difficile?
On était à l'école sur Douai, et quelquefois, on était obligé de revenir parce qu'il y avait des alertes à la bombe. D'ailleurs, la gare de Douai a été bien démolie avec toutes ces bombes. Et donc, on avait quelquefois peur, quoi.
Ça vous a un peu traumatisé, non? Vous avez encore des séquelles aujourd'hui?
Bon, on revoit toujours. On voit toujours ça. Mais c'est la vie.
Je sais que toi, du coup, Marie-Jo, vous avez eu une histoire avec une poupée qu'un garde, un soldat vous a donnée?
Ah oui, quand les Anglais sont revenus... Et ils ont passé Noël chez nous. Et comme on avait deux petites pièces qui n'étaient pas occupées, c'était des grands-parents, papa a laissé deux personnes, je ne sais plus si c'était un commandant ou un autre, dans ces pièces-là, ils y vivaient. Et à Noël, ils nous ont... On était deux petites filles, on a eu chacun notre première belle poupée. Elle faisait bien 50 cm. C'était quelque chose pour nous, je crois que ça c'est resté tout le temps.
Et vous, Francis, apparemment, vous avez peut-être vous n'avez pas quitté votre ferme?
On a évacué.
Pourquoi vous avez évacué?
Parce qu'on a évacué. Les Allemands y arrivaient, quoi. Ben, c'était, on voyait passer tout le monde qui partait, tu sais, qui descendait.
Et vous avez évacué comment?
Avec un cheval, avec une voiture à cheval, un char à bosse, avec les grands-parents. Puis papa n'a pas évacué, il est resté là. On surveillait la maison. Quoi.
Et puis la ferme.
Puis la ferme, quoi. Et nous, on est partis, on n'a pas été loin. On est allé jusque Béthune, je crois. Une vingtaine de kilomètres, Béthune.
50.
Ouais, avec un cheval, et puis on est revenu après avec un cheval. Donc on a dit, maintenant c'est fini, on peut y retourner chez vous.
Est-ce que vous avez déjà vu des déportés?
Nous avons eu des évacués, c'est-à-dire des Belges qui sont venus, qui ont eu peur de la guerre et sont venus y loger dans les granges, les endroits, et puis... Bon, ils cherchaient de la nourriture, ce qu'on pouvait leur donner.
Un moment de solidarité, du coup?
Ah ben, beaucoup, hein. On donnait, puis après, ils avaient quand même de l'argent, donc ils payaient un petit peu, quand même, hein, quand ils prenaient du beurre ou bien autre chose, quand on avait, bien qu'on était bien contrôlés par les Allemands. Hein.
Bah, vous pouvez raconter un peu comment s'est passé le contrôle des Allemands?
Le contrôle des Allemands? Ah ben, ils avaient passé dans les fermes, on avait autant de vaches, et tout était contrôlé. Et on pouvait pas beaucoup, tricher.
Et comment vous avez su que les Allemands arrivaient?
Arrivaient?
On les a vus arriver. Ils étaient habillés encore en marron, en vert.
On voit les uns partir, se dépêcher, tu sais, c'est la débandade, oui. La débandade, et puis après tu vois arriver les camions de l'autre, et puis c'est la panique.
Bah, tout en restant sur le thème, c'est du coup de la, quand vous êtes été pris par les Allemands, vous êtes caché chez vous le temps que ça se passe un peu.
Non,
on se cache. Ah non, non.
On ne s'est jamais caché.
On ne s'est jamais caché, on a toujours continué
à faire l'affaire, tout ça.
Oui. Voilà. Et puis à l'école,
on a toujours été à l'école.
Oui.
Et vous avez eu des amis juifs qui ont été déportés dans les camps ?
Non. Les juifs ne les ont pas eu déportés.
On savait, mais tu sais ça.
Non, ils étaient déportés. C'était pas des juifs, c'était des communistes.
Oui, qui sont morts d'ailleurs.
C'était assez impressionnant de les voir partir comme ça ?
Impressionnant. C'était l'oreille, on le savait du bouche à oreille, mais on ne savait pas.
Oui. Il partait, on ne savait pas où il partait. Hein.
Ben c'est oui. Et puis papa et maman ne nous laissaient pas voir trop s'il y avait quelque chose, on n'avait pas le droit d'y aller.
Ah, vous n'avez jamais su que c'était dans des camps de concentration ?
Non. La famille le savait sûrement. Ils se renseignaient.
Oui, ils se renseignaient. Mais pas nous. Mais nous, on était trop jeunes encore, quoi.
Et vous pouvez sortir, vous avez des couvre-feux ou vous pouvez sortir quand vous voulez ?
Ah ben, oui. Et puis, on n'avait pas le droit à trop d'éclairage. Il fallait mettre des rideaux, des tout fermé.
Ouais.
Je ne sais pas pourquoi, là.
Et vous avez dit à un moment que vous avez vu une bombe tomber, non ?
Oui, qui était... Non, un avion.
Oui, un avion.
Un avion qui était tombé là, pas loin. Mm-hmm. Ben, on entend les avions tourner, puis après, la DCA qui bombardait. Et puis, on regardait où est-ce que ça allait tomber.
Quel enseignement tirez-vous de cette période de votre vie ? Et est-ce que ça a influencé sur votre vision du monde pour la suite ?
On a vu tout le malheur des uns et des autres, parce que beaucoup ont perdu de la famille qui a été bombardée, tout ça. Et là, on a quand même pris... On a vu ce que c'était qu'une guerre. On a su ce que c'était qu'une guerre.
Bah, d'ailleurs, sur la libération, est-ce que c'était un moment de fête, du coup ?
On était contents, bien sûr. Oui. Surtout les parents. 6 et 5, 11, j'avais 11 ans. Hein, 11, 12 ans quand ça a terminé. Quand la guerre a terminé, on était contents, et les parents encore plus. Et puis tu vois les gens passer avec des drapeaux, et puis ça chante, et puis ça... Voilà, c'est...
Au moins, ça ne vous a pas traumatisé ou empêché de vivre, quoi.
Mais non. On n'avait pas eu de décès dans la famille.
Oui, c'est...
Tu sais, on a eu cette chance-là.
Et vous avez eu des amis qui avaient des décès dans leur famille ?
Il y en a beaucoup, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a une dame qui venait chercher du beurre à la maison... Elle venait de Douai. Mmh. Et quand la gare de Douai a bombardé, nous, on était assez haut, là, sur les champs, et on voyait les bombes descendre sur la gare. Alors, quand on lui a dit ça, elle a dit « Oh là 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 là, je retourne. » Et puis son mari a été tué, et puis son beau garçon. Ça m'a toujours marqué parce qu'elle l'a senti, tu sais.
Et du coup, vous avez vu les bombes tomber ?
On voyait les bombes tomber, c'était beau même. Hein ? Ah oui, ça faisait des chapelets. Regarde combien il y en a. Oui, mais...
Non, c'est un cardonnier, quelque chose.
Tout le monde n'a pas regardé de la même façon. Hein ?
Oui.
Parce qu'il y avait combien qui travaillaient sur la gare de Douai, hein ?
Oh, Rimbaud-Court,
une centaine de morts.
Trois qui ont été tués de Rimbaud-Court.
Ah oui, il y a quelques-uns de morts de Rimbaud-Court. Oui, ça a été peut-être la plus grande épreuve qu'on a subie.
Les sœurs Bouquerel.
Oui, puis qu'on a vécu parce qu'on était déjà vers la fin de la guerre.
Bah, merci beaucoup pour vos réponses. Au terme de cette interview poignante avec Francis Duhem et Marie-Jo Ballot, nous avons eu le privilège de plonger dans leur passé. Leur récit nous rappelle l'importance de l'espoir et de la solidarité, même dans des périodes les plus sombres. Leurs histoires resteront gravées dans nos mémoires, nous rappelant l'importance de préserver la mémoire et de tirer des enseignements du passé pour façonner un avenir meilleur.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Jacques Addy, c'est aussi la plateforme en ligne jacquesaddy.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacquesaddy.org.
Donc on peut remercier Zoé pour cette interview très intéressante.
On va maintenant écouter Léo qui va nous présenter le film Le garçon au pyjama rayé.
Un jour, je traîne sur TikTok et je vois un extrait qui m'interloque. Alors, je suis tout de suite plongée dans l'histoire parce que malgré ce court instant, il est passionnant. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Le garçon au pyjama rayé. Ce film est produit en 2008 et il est tiré du livre du même nom de John Boyne. Ce film nous raconte l'histoire de Bruno, enfant de 9 ans, qui vit pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père est un officier repéré par le Führer. Il décide, avec sa famille, de déménager vers la campagne car le père a été promu à la tête d'un camp de mise à mort. On va assister à la naissance d'une amitié entre Bruno, enfant allemand classique, et Schmoul, un enfant juif qui est enfermé dans ce camp. On assiste à, tout le long du film, une innocence de la part de ces deux enfants où l'un ne comprend pas pourquoi l'autre est enfermé, pourquoi il a un pyjama bizarre, pourquoi il a un numéro. D'abord, il pense que c'est un jeu. T'as un jeu pour avoir un numéro ? Donc, et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai trouvé ça très touchant, le fait justement qu'on montre cette ignorance des enfants, que à l'époque, les enfants, ils étaient peut-être pas tous au courant de ce qui se passait, et qu'ils ne savaient pas l'atrocité de ce qui se passait. Et voir Bruno, qui est totalement ignorant, c'est vraiment quelque chose qui m'a le plus plu dans ce film, et je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est vraiment un film que je conseillerais, même ma mère est allée le voir, oui. Et vraiment, je vous le conseille et je trouve qu'il est vraiment bien pour expliquer. Et je pense que, alors même si c'est une histoire qui est dite fictive, je pense que ça a dû arriver au moins une fois, ce qui s'est passé dans le film. Mais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. L'amitié qui va se construire entre ces deux garçons qui sont de camps complètement opposés. On a l'un qui est privilégié, l'autre qui est enfermé dans un camp de travail. Donc c'est vraiment admirable toute cette organisation, même comment est tourné le film, j'ai trouvé ça très très sympa. Voilà, je vous invite à le regarder, mais sortez les mouchoirs.
Merci Léo de nous avoir présenté ce film que tu recommandes à nos auditeurs. Nous allons maintenant entendre une interview de Robert Marie, qui est un passionné du maquis sur Couf, le réseau de résistance de Pont-Audemer. Elle a été réalisée par Chloé, Ethan et moi.
Bonjour à tous, nous sommes avec un très bon connaisseur du coup du maquis sur Couf, donc le mouvement de résistance normand durant la Seconde Guerre mondiale. Donc bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ?
Oui, je m'appelle Robert Marie, j'habite à Saint-Étienne-l'Allier, le berceau du maquis sur Couf. J'étais instituteur dans cette commune et j'avais beaucoup de relations avec les anciens maquisards qui venaient expliquer à mes élèves comment on vivait au temps du maquis. C'est pour ça que je me suis intéressé à cette histoire.
Est-ce que vous pourriez présenter le maquis sur Couf pour nos auditeurs, s'il vous plaît ?
Oui, alors le maquis sur Couf d'abord a été créé par Robert Leblanc, qui a été épicier à Saint-Étienne-l'Allier en 1942. Il a d'abord recueilli des jeunes qui refusaient d'aller travailler en Allemagne. Et puis ensuite a été créé en 1943, en avril 1943, ce qu'on a appelé le STO, Service du Travail Obligatoire. Et de nombreux jeunes étaient obligés d'aller travailler en Allemagne, qui manquait de main-d'œuvre, qui avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour fabriquer des armes, etc. Donc les jeunes en général refusaient de se rendre en Allemagne, échappaient à leurs conditions et cherchaient un lieu où s'abriter. C'est comme ça qu'est né le maquis sur Couf. À la fin de 1942, au début de 1943, il y avait simplement 20 garçons qui étaient maquisards, qui se cachaient. Donc Robert Leblanc leur trouvait des planques dans des fermes, etc., pour les cacher. Et puis plus tard, en décembre 1943, donc après que le service du travail obligatoire fut rendu obligatoire, il y avait 105 hommes dans le maquis. Et puis ça a continué à augmenter. Voilà comment est né le maquis sur Couf et à quoi il servait. Donc il y avait aussi d'autres personnes qui ne se cachaient pas, qui restaient à leur domicile, qu'on appelait les sédentaires, et qui aidaient le maquis en faisant diverses actions. Particulièrement, il y avait des gendarmes de Saint-Georges qui avaient rejoint le maquis et qui aidaient considérablement les maquisards.
Est-ce que la famille de Robert Leblanc était au courant de ses actions, ses proches, etc.
Alors, Robert Leblanc avait une femme et 4 enfants. Et bien sûr, tout le monde était au courant et tout le monde devait se cacher. Madame Leblanc a dû prendre pas le maquis, elle, mais bon, a dû se cacher pendant la guerre parce que son mari était continuellement recherché par les Allemands. Elle avait très peur. Alors, ses enfants aussi ont des souvenirs de cette période. Et actuellement, donc, il y a une amicale du maquis en 2024, et le président de l'amicale du maquis s'appelle Robert Leblanc. C'est le petit-fils de Robert Leblanc et qui continue à faire en sorte que l'on se souvienne de son grand-père.
Est-ce que vous savez si le maquis Surcouf a été découvert par les Allemands ou, enfin, du coup, vous disiez qu'il était en tout cas connu des troupes allemandes, mais il n'a jamais été découvert
Certains maquisards ont été malheureusement arrêtés, oui. Puisqu'il y a eu quand même, dans les maquisards, il y a un monument à Saint-Étienne, qu'on appelle un mémorial, où il y a le nom de 130 personnes qui sont mortes à cause de leur appartenance ou de leur aide au maquis. Donc les maquisards, le maquis n'a jamais été détruit complètement par les Allemands, mais Robert Leblanc a souvent été recherché. Et les Allemands ont menacé, par exemple, le village de Saint-Étienne-Allier en prenant des otages, menaçant de les fusiller. C'était le 14 juin 1944. Et dans le camion qui apportait les Allemands, il y avait aussi un monsieur de Pont-Aulnay, Louis Gillin, qui était avoué à Pont-Aulnay, qui était dans le camion des Allemands qui recherchaient le maquisard.
Comment se passait l'organisation aussi, parce qu'il fallait réunir toutes ces personnes, parce que vous disiez qu'il y avait presque 250 à un moment, oui. Donc c'était quand même un nombre important à réunir pour s'organiser, pour effectuer ce mouvement de résistance. Du coup, comment ça se passait?
Alors c'est une grande énigme et c'est très intéressant, parce que Robert Leblanc devait effectivement les nourrir, les entraîner, les surveiller aussi, parce qu'on craignait que des Allemands ou des étrangers s'intègrent dans le maquis et puissent détruire le maquis de l'intérieur, quoi. Et ça existait une fois. Donc Robert Leblanc avait une organisation très spéciale pour nourrir ces gens. Donc il faisait appel aux cultivateurs, donc aux laitiers, à beaucoup de gens pour des dons. Et il imposait aussi parfois des règles qui faisaient qu'il n'était pas toujours bien vu par les populations. Et pourtant, il fallait qu'il nourrisse tout le monde. C'était difficile, effectivement.
Est-ce qu'il y avait des femmes qui étaient présentes dans le mouvement, ou alors c'était réservé aux hommes ou...
Ah, c'est une bonne question, parce qu'on oublie souvent les femmes. Oui, il y avait des femmes qui étaient présentes dans le maquis. Alors, dans le maquis Surcouf, il y avait une femme qui a partagé la vie quotidienne des maquisards, qui s'est cachée. Elle s'appelait Puce, elle était la secrétaire de Robert Leblanc. Mais il y avait d'autres femmes qui aidaient le maquis Surcouf. Moi, j'ai connu une institutrice de Saint-Étienne qui n'appartenait pas au maquis Surcouf, mais à un autre réseau de résistance, et qui a beaucoup travaillé aussi dans la résistance et en collaboration avec le maquis Surcouf. Il y avait aussi des autres femmes qui portaient des lettres, faisaient des actions de résistance en aidant Robert Leblanc à transmettre du courrier, par exemple. Hein. Il y avait aussi des dames qui aidaient à soigner les maquisards lorsqu'ils étaient blessés. Et il y avait une dame qui, à Saint-Christophe-sur-Condé, avait un manoir. Elle s'appelait Madame Devancé et elle avait mis son manoir à disposition du maquis Surcouf pour constituer un hôpital de campagne pour soigner les maquisards. Il y avait la doctoresse de Saint-Georges-du-Vièvre, Madame Duclos, qui allait soigner les maquisards. Donc, il y a beaucoup, Madame Jacqueline qui faisait infirmière. Beaucoup de femmes ont travaillé pour le maquis, ont aidé les maquisards. Il ne faut pas les oublier.
Nous savons que les gens du maquis Surcouf avaient des surnoms. D'ailleurs, Robert Leblanc n'en possédait pas. Avez-vous des exemples de surnoms?
Ah oui, je connais plusieurs gens du maquis qui avaient des noms. Il y avait la Torpille, il y avait Grand Jules, il y avait Bezeau, il y avait l'abbé. Parce qu'il y avait l'abbé, c'était vraiment un abbé. Et beaucoup de noms bizarres, hein. Bizarres enfin. Donc, qui ont passé. Mais Robert Leblanc, lui, il n'avait jamais eu de pseudonyme. Il a toujours été chef du maquis et signé de son nom, et pas par des pseudonymes. Il y a aussi une dame, celle qui s'appelait Simone Sauter et qui était membre du maquis. Je vous l'ai dit, elle avait accompagné le maquis pendant toute sa vie. Elle avait une machine à écrire très lourde, dont j'ai gardé un exemplaire dans mon exposition. Et cette dame s'appelait Puce. Elle était institutrice à Saint-Étienne-l'Allier. Elle avait été institutrice. Elle était institutrice à côté de chez vous, côté de Routot, je crois. Et elle avait donné trop de cartes d'alimentation aux gens. Elle était trop généreuse et les Allemands l'avaient... Elle avait été dénoncée et les Allemands l'avaient arrêtée. Alors, elle voulait l'arrêter. Alors, elle a pris le maquis sous le nom de Puce. C'était son pseudonyme. Et après la guerre, elle a écrit un livre pour raconter ses mémoires et la vie au maquis, ce qui est un livre très intéressant.
Vous avez des exemples d'actions qu'a mené le maquis ?
Oui, oui, j'ai plusieurs types d'actions qu'a mené le maquis. Alors, il y en a une qui me plaît particulièrement parce que je trouve que Robert Leblanc avait beaucoup de sang-froid. Et le jour de Noël 1943, ils sont allés pour détruire un dépôt d'essence à Harcourt. Détruire un dépôt d'essence et voler d'essence pour eux, l'essence qu'ils avaient besoin pour faire circuler leur véhicule. Et voilà, donc vol de dépôt. Et à Saint-Georges-du-Vièvre, le camion de Robert Leblanc tombe en panne et le café qui est dans le bas de la côte de Saint-Georges-du-Vièvre est rempli d'Allemands qui fêtaient Noël. Ils avaient un peu bu, ils étaient un peu éméchés. Et Robert Leblanc est allé trouver des Allemands. Il leur a dit, voilà, je transporte de l'essence pour l'organisation Todd, une organisation allemande. Mon camion est en panne, est-ce que vous pourriez m'aider à le dépanner ? Les Allemands, ya, 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 et ils sont tous allés derrière le camion et l'ont poussé. Voilà.
On sait que Robert Leblanc n'est pas mort durant la guerre, qu'il a vécu une dizaine d'années encore après. Vous l'aviez dit, il a été reconnu comme commandant,
oui.
Mais ça a été plutôt paisible pour lui, ou alors il a continué à reconstruire la France.
Alors c'était très compliqué pour Robert Leblanc, parce qu'après la guerre, il y avait une ambiance assez détestable en France, parce qu'on a voulu réprimer ceux qui avaient collaboré, mais on a vite oublié ce genre-là, on a voulu faire la paix. Et Robert Leblanc a eu beaucoup d'ennuis, il a été accusé de tout un tas de choses, il a été blanchi, bien sûr, par la justice, et il n'a pas eu une... c'était difficile pour lui, l'après-guerre, c'était difficile pour lui. Et donc, il avait perdu son métier d'épicier à Saint-Étienne. Il avait repris le métier de peintre, qui était assez difficile. Et il est mort dans un accident de voiture, en 1956.
Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On a appris beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui nous manquaient. Et bah, merci beaucoup et à bientôt.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Retrouvez-nous sur 96.2 FM
et en podcast sur toutes les plateformes.
Voilà, c'est déjà la fin de ce Mag Actu. Pardon, je voulais dire que c'était la fin de ce Mag Culture, désolée. J'aimerais remercier Chloé avec qui on a travaillé les textes mais qui n'a pas pu être là. Et merci à tous ceux qui y ont participé. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à bientôt sur Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Le Mag Culture de l'Atelier Média.
Interviews, reportages et chroniques.
Cinéma, séries,
musique,
livres,
BD, manga, jeux de rôle
et jeux vidéo.
Jacques Addy.
C'est aussi la plateforme en ligne jacquesaddy.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacquesaddy.org.